chance sur la terrasse Lehman, c'est Isabelle Gosselin.
Félicitations, Isabelle. Le mois de juin, vous le savez peut-être pas, mais c'est le mois des aînés. Et on pensait souligner ça de façon particulière en recevant quelqu'un qui est un chercheur et un spécialiste du vieillissement pour nous en jaser. Il s'agit du docteur Éric Simard. Monsieur Simard, bonjour et bienvenue au FM 93.
Oui, bonjour.
Donc, d'abord, avez-vous trouvé la fontaine de jouvence, vous, parce que vous vous intéressez au phénomène du vieillissement. Puis évidemment, on est une société vieillissante. On en parle souvent que le Québec est un endroit, une société qui vieillit rapidement. Est-ce que le vieillissement change? Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle forme de vieillesse? Parce qu'on a quand même une possibilité, une espérance de vie accrue. Quels sont les phénomènes que vous observez en tant que chercheur, là?
En fait, je vous dirais qu'il y a trois éléments pour répondre correctement à votre question. Un, il suffit de se rappeler, il y a peut-être une trentaine d'années déjà, les gens de 65 ans qu'on voyait il y a une trentaine d'années, comme quand moi j'étais jeune, là, c'était pas les gens de 65 ans d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Deux, en fait, c'est que l'étude des populations centenaires, Okinawa, entre autres, pour la nommer, nous a apporté énormément d'informations. À Okinawa, déjà depuis 1975, on savait là-bas qu'il y avait une espérance de vie beaucoup supérieure, en fait, au reste de la planète.
C'est où, ça?
C'est au Japon. Okay. En fait, dans le monde, le pays dans le monde qui a la meilleure longévité, c'est le Japon, en fait, tout pays confondu. Et entre l'île d'Okinawa, qui est une île, en fait, du Japon, et le Japon en tant que tel, on a encore une différence significative importante. Et l'étude des populations centenaires nous a amené deux types d'informations fort intéressantes. Un, c'est que d'un côté, c'est pas la génétique. C'est pas les centenaires, les super centenaires ont habituellement exactement les mêmes niveaux de risque de maladies génétiques que le reste de la population. Ce qui fait que ces problèmes-là vont s'exprimer ou non, c'est nos habitudes de vie. Et deux, quelles sont les habitudes de vie en question? Et donc, pour bien répondre à votre question, dans le fond, c'est que la population vieillit déjà mieux qu'elle vieillissait auparavant. Ça, c'est très clair, on le voit. Deux, c'est qu'on sait comment on devrait faire pour... qu'est-ce qu'on devrait expliquer aux gens, comment on devrait vieillir, quelles devraient être nos habitudes de vie pour bien vieillir, comme par exemple la population d'Okinawa. Et trois, d'un point de vue scientifique, on est en train de découvrir qu'il y a des phénomènes en place au niveau des cellules sur lesquels on peut agir et ralentir le processus.
OK. Mais là, je veux savoir, quand on, par exemple, on veut perdre du poids, on dit toujours que c'est comme 80% de notre alimentation puis 20% de notre activité physique. Pour l'espérance de vie, est-ce que c'est le même ratio ou si ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est plus notre alimentation que nos activités physiques?
Dans l'ensemble des habitudes de vie, c'est que oui et non. C'est que c'est un tout. Et c'est réellement un tout. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les gens qui sont excellents en activité physique, s'ils mangent mal, ça va pas. Ils vont passer à côté de 80% du bénéfice. Et techniquement, quand on regarde les habitudes de vie des gens des populations centenaires, il y aurait quatre grands facteurs. Vous en avez nommé deux. Il y a l'activité physique et l'alimentation. Ça va de soi. On en parle beaucoup de ceux-là. On les connaît très bien. Les deux autres seraient la saine gestion du stress et de l'anxiété et la qualité de la vie sociale. Et j'ai décrit, en fait, dans mes livres, un cinquième facteur que j'ai appelé un facteur facilitant, qui est en fait le fait d'être fondamentalement positif. Les gens des populations centenaires ont tous le même genre de personnalité. Ça envoie une information extrêmement intéressante, parce que ces gens de ces populations-là qu'on a étudiés de par le monde, il y en a qui sont en Italie, la Sardaigne, entre autres, il y en a qui sont en Crète, il y en a qui sont en Californie, et il y a des gens, en fait, de l'Amérique centrale. Donc, ces gens-là qui ont été très étudiés ont tous le même genre de personnalité. Ça envoie un message très clair aussi sur l'importance même du type de personnalité, de la façon de voir les choses.
Vous parlez de la vie sociale. Moi, je le répète souvent, puis c'est des médecins qui me l'avaient dit. Peut-être que vous pouvez me le confirmer. On dit souvent que la première cause de mort, c'est pas le cancer, c'est pas les crises cardiaques, c'est la solitude. Est-ce que vous êtes à même... Non, mais c'est vrai dans le sens où c'est des gens qui, quand on n'a plus de vie sociale, en quelque part, on meurt. Est-ce que vous le constatez?
Oui. Je peux vous mettre des chiffres dessus, ça va vous intéresser beaucoup. Deux choses, en fait, que je peux vous souligner, qui sont fort intéressantes. On estime qu'une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. 15 ans,
c'est énorme.
Ah oui, c'est énorme. L'autre chose qui est fort intéressante, c'est qu'il y a une étude canadienne qui avait démontré, puis il y a déjà de ça 5 ou 6 ans, peut-être même un petit peu plus longtemps, je suis pas sûr exactement de la date, là, que des femmes avec un cancer du sein ont 4 fois plus de chances de survie si elles ont un grand cercle d'amis qu'une femme vivant seule. 4 fois plus de chances de survie. On parle de cancer du sein. Là,
on ne peut pas dire qu'elle est en couple versus qu'elle est célibataire. Là, c'est pas ça. Là. C'est qu'elle a un cercle social, là, c'est-à-dire des amis, de la famille, des voisins, du monde autour d'elle. Là.
Oui, et normalement, là, ce qu'il faudrait considérer, hein, c'est écoutez, les amis Facebook, habituellement, ne compteraient pas. Là. C'est que ça prend des vrais amis. Ça prend des gens sur qui on peut compter. Ça prend des gens avec qui on va dire les vraies choses. Des gens avec qui, en fait, on si on a besoin d'aide, on va le demander. Et si on a besoin d'aide, on va y aller. Donc, c'est extrêmement important.
Donc, c'est la vie sociale. Ensuite de ça, vous parlez du stress. C'est pas que c'est pas des gens qui ont pas de stress. C'est la façon dont ils gèrent leur stress, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Le stress, on en parle plus aujourd'hui qu'on en parlait il y a 30 ans, mais le stress, d'un point de vue biologique, là, tout le monde fait du stress. Et c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait
la vie d'avoir du stress.
Oui, oui, c'est normal. En fait, le stress, c'est une réaction physiologique qui mobilise une quantité d'énergie pour nous aider à soit fuir, soit combattre. Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à se contrôler. Et je vous dirais que pour apprendre à se contrôler, puis bien, disons, gérer le stress, parce que le stress, justement, tout le monde en fait, vous venez juste de le mentionner, ce qui va faire la différence entre les gens qu'on considère pas stressés puis ceux qui sont tout le temps stressés, c'est la façon dont ils vont le gérer. Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de bien apprendre à vous connaître. Parce qu'il y a différentes facettes qui vont causer du stress. Quand on comprend bien ce qui nous affecte le plus personnellement, on va développer nous-mêmes des façons de l'adresser.
De se défendre. Vous avez parlé du positif. Qu'est-ce que ça veut dire quoi concrètement, être positif dans la vie? Parce que c'est très vague. Là. On essaie, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien.
Oui, oui, quel beau concept, effectivement. C'est beaucoup de gens, écoutez, je donne beaucoup de conférences grand public, les gens me disent souvent, oui, oui, le verre à moitié plein. Ouais, le verre à moitié plein, c'est beaucoup plus que ça. Pour vous donner un bon exemple de qu'est-ce que c'est, là, je vais vous donner deux anecdotes. Un, c'est quand on regarde les études qui ont couvert les gens des populations centenaires, on se rend compte que les médecins rapportent toujours le même phénomène que quand on lui demande de s'auto-évaluer, ces gens-là sont beaucoup plus positifs envers leur état de santé que ce que le médecin n'aurait dit. Le fait d'être fondamentalement positif, ça va jusque-là. Et l'autre petite anecdote que je peux vous donner, en fait, puis ça vient avec la définition qu'on lit souvent dans les articles scientifiques, c'est que quand j'étais au primaire, puis avant l'écriture de mon premier livre, ce que je vous raconte là, je l'avais jamais réalisé, en fait. Il m'est revenu un flashback intéressant, vous allez comprendre. Mon arrière-grand-mère, j'allais dîner chez mon arrière-grand-mère. À l'époque, elle avait déjà 86 ans. Ça faisait déjà 8 ans qu'elle entretenait sa maison toute seule. Moi, imaginez-vous, là, j'étais un enfant du primaire. Et quand je demandais à ma grand-mère comment ça allait, elle me répondait à peu près toujours de la même façon que le ton d'un général de l'armée, là. Ça va très bien, ça a toujours bien été, je verrais pas pourquoi que ça changerait.
Ça allait toujours bien pour elle. Tout était parfait.
Ouais, ben. J'avais pas réalisé à l'époque qu'elle venait de me dire les trois choses fondamentales des gens qui sont positifs. Les gens fondamentalement positifs, ils ont un regard positif sur le passé, ils ont un regard positif sur le présent, puis ils sont confiants de l'avenir. Demandez-y pas comment ça va bien aller. Fait que elle était réellement quelqu'un de fondamentalement positif. On le voit à cette façon-là. Et chose étonnante, c'est que ça se développe en fait. Hein. Regardez l'idée que ça se développe.
En vieillissant, on peut devenir être de plus en plus positif.
Oui, ben on sait, encore là, je vous dis, les scientifiques aiment ça vous donner des chiffres. Là. Les gens qui sont fondamentalement négatifs, il y en a, on appelle ça le neurotivisme. 45%, ça serait génétique. Il y aurait une tendance génétique à l'être, mais ça veut dire que 55% l'ont appris. Hein? Mathématiquement.
C'est un sur deux, pratiquement.
Fait que si un côté, ça prend, l'autre côté, ça prend aussi. Moi, ce que je donne habituellement comme conseil aux gens, c'est de considérer que c'est comme deux grands arbres dans votre vie. Et lui qui va devenir dominant, c'est lui que vous allez arroser le plus.
Vous choisissez qu'est-ce que vous voulez, dans le fond.
Exactement. Mais,
est-ce que votre grand-mère a vécu vieille?
Oh oui, ben oui. C'est un cas typique. En fait, quand on se demande à quel point les saines habitudes de vie peuvent avoir un très gros impact, c'est épatant. C'est que ces gens-là, en plus de vivre beaucoup plus vieux, vont être en santé beaucoup plus longtemps. Ouais. Elle a entretenu sa maison toute seule jusqu'à 92 ans. Vous imaginez ce que ça représente? Oui. Mmh. Puis quand elle a commencé à dépérir, en fait, à 92 ans, elle nous a elle-même demandé de l'amener, en fait, dans un foyer personnes âgées. À 98 ans, elle a elle-même demandé qu'on l'amène à l'hôpital parce qu'elle filait pas. Je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Les médecins à l'époque nous ont dit, mon Dieu, amenez-y ces choses. Jamais qu'elle va ressortir de l'hôpital. Jamais vu un profil comme ça. Puis deux semaines après, elle était décédée avec les gens autour de son lit en disant que son teint était venu, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait mené une belle vie. Vous savez, c'est exactement comme ça qu'on voudrait que ça se passe.
Ouais.
Mais imaginez-vous, là, que ce qui peut aider les gens à faire ça, c'est les saines habitudes de vie. C'est très clair. Et moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, avec le temps, entre autres en écrivant des livres, c'est d'essayer de l'expliquer à la population. Avant tout, c'est ça qu'on devrait faire.
J'ai lu que la sous-alimentation, c'est-à-dire manger un peu moins, peut favoriser aussi la longévité. Est-ce que c'est une légende urbaine ou si c'est vrai?
C'est complètement vrai. C'est qu'en fait, Ce qu'on a commencé à découvrir en 2010, parce qu'il s'est passé des très grandes découvertes dans le monde scientifique, hein, entre autres ce qu'on a découvert avec l'Université Concordia. Et entre 2000 et 2010, on était dans le flou, en fait. On était en train de se rendre compte que ce qu'on avait pris toujours pour acquis n'était pas vrai. Maintenant, quand tu te rends compte que tes choses n'est pas vrai. Entre 2010 et 2013, il y a eu un paquet de publications qui ont démontré, en fait, que la vitesse à laquelle on se développe est reliée à la vitesse à laquelle on vieillit. Et l'apport calorique augmente la vitesse à laquelle on se développe pour qu'on soit à même de se reproduire le plus rapidement possible. Fait que plus tu prends de calories, plus tu vieillis vite. La question, donc, si on mange un peu moins, oui, ça peut ralentir le processus. Il faut faire très attention de ne pas manquer de nutriments. Fait que c'est toujours dans un contexte d'équilibre alimentaire, ouais, dans lequel on ne manquera pas de nutriments. Mais techniquement, même, il y a des scientifiques, des experts dans le domaine qui vont dire qu'on devrait manger deux petits repas par jour et une collation.
Aïe aïe.
Oui, et non pas trois repas et deux collations. Là. On n'est pas là, là.
Puis, est-ce que le... Parce que on pense toujours le contraire, là, mais vous dites que vous avez fait des découvertes au niveau d'extraits végétaux. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est puis qu'est-ce que ça a comme apport?
Oui, bien, c'est que je vous ai mentionné tout à l'heure que la poussée de l'organisme à grandir, à croître, est aussi reliée à notre vieillissement plus tard dans notre vie. Cette poussée-là de l'organisme à vieillir, techniquement, va affaisser nos capacités de maintenance et de réparation. On se répare de moins en moins bien. Ce qu'on a découvert avec l'Université Concordia, c'est des nouvelles molécules qui viennent, oui, de plantes, qui sont des molécules naturelles, qui vont soit agir d'un côté sur notre capacité à se réparer, ou soit agir de l'autre côté, justement, sur la poussée de l'organisme à vieillir. Et ce qu'on vient de publier dernièrement, qui est les meilleurs résultats dans le domaine, en fait, dans la revue qui a la plus grosse cote scientifique dans le domaine du vieillissement, c'est que quand tu fais les deux en même temps, tu as un impact synergique extraordinaire. Et donc, ça ouvre la porte, en fait, à un développement de nouveaux produits qui vont ralentir les processus du vieillissement, qui vont permettre de garder les gens en santé plus longtemps. Ça va pas permettre de vivre 150 ans, en passant. C'est pas ça.
On sera jamais éternel, là. C'est pas ça, la question.
Non, c'est plus d'augmenter nos chances de faire comme mon arrière-grand-mère. Si on était capable d'amener les gens, en fait, techniquement...
À santé, en forme, là.
Ouais, actuellement, c'est qu'on pense qu'on serait... On a 20 à 30 ans de jeu. Autrement dit, qu'on serait capable d'amener quelqu'un de 50 ans avec les mêmes capacités et mêmes apparences à 70 ans. À 70 ans, avec les capacités d'une personne de 50 ans, on s'entend que ça va changer, oui, énormément de choses.
Je comprends. Et les recherches nous disent qu'il y a des comme nous autres, c'est Alex, par exemple, là, ils jeûnent. Là, ils font des jeûnes, puis il y en a d'autres qui sont comme Julie, ils font du keto, là, mais il y a toutes sortes de gens présentement qui ont toutes sortes de nouveaux régimes, puis il y a toutes sortes de, entre guillemets, de modes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça peut être bénéfique ou si c'est juste des questions de mode, puis on va en avoir d'autres l'année prochaine, ça va toujours être à recommencer?
Ça peut être bénéfique, oui, c'est très clair. Je vous dirais que c'est pas complètement des modes. La question du jeûne alternatif peut prendre toutes sortes d'aspects. Je vous dirais que ce qu'il faut faire attention surtout là-dedans, hein, c'est de considérer, moi je vous dirais deux choses. Hein. C'est que, un, on a un continuum dans tout ça. Là. C'est que, comme par exemple la question d'être keto, a des raisons d'être pour des gens qui ont des troubles métaboliques importants. Je dirais qu'une fois que le trouble métabolique est réglé, on devrait considérer de revenir à une alimentation qui est un peu plus normale, un peu plus équilibrée. Je pense que c'est sain, parce que les données de longévité qu'on a actuellement sont beaucoup plus équilibrées que le keto en tant que tel. De l'autre côté, le jeûne intermittent est très intéressant dans une notion où, comme je vous disais tout à l'heure, manger deux repas par jour plus une collation, là, la meilleure façon de le mettre en application, en plus, c'est de manger les deux repas et la collation dans la période la plus courte dans la journée possible. Fait que le jeûne, quand on considère un jeûne intermittent, on pourrait considérer que ne pas manger 14 heures dans la journée est déjà un jeûne intermittent. Fait que la science dans le domaine va nous faire des avancées considérables qui vont nous amener des nouvelles optiques au niveau de l'alimentation, au niveau de la nutrition. Mais gardez à l'idée aussi que c'est très important de toujours faire attention à l'état de santé de la personne. Il y a des gens qui peuvent pas se permettre de faire ça. Il faut quand même faire très attention. N'hésitez jamais, en fait, à consulter un nutritionniste. C'est quelque chose, ou un nutritionniste, là. C'est quelque chose de très important, en fait, de garder à l'idée.
Docteur Éric Simard, c'est fascinant de vous entendre. Vous êtes auteur, docteur en biologie, président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada depuis 10 ans et membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Merci infiniment d'être venu, mais vous êtes vraiment le spécialiste du vieillissement. Vous venez d'ailleurs de publier un livre. En fait, vous en avez publié 3, j'ai bien compris.
Oui, effectivement.
Donc, ceux qui en veulent plus, là, vous avez juste à faire des recherches. Ça, c'est le dernier, le petit guide de longévité que vous pouvez lire. Sinon, il y en a deux autres. Là, puis aussi consulter le site web. Donc, docteur Éric Simard, merci beaucoup d'être venu nous visiter aujourd'hui.
C'est un grand plaisir. Merci à vous.
Le retour d'Éric Duhaime, FM 93. Ça me parle. On revient dans quelques minutes. Le retour d'Éric Duhaime, présenté par Citadel Chevrolet. Profitez de la promo Paris-Célébonie et obtenez jusqu'à 20% d'escompte sur certaines Sierra ou Silverado 2019 chez Citadel Chevrolet à Lévis.